Bonjour à tous. Donc, cette communication vous est proposée par Philippe Valette, qui est membre de l'UMR Géode et de la ZEDA Pigard, ainsi que Coralie Dotto d'AgroCampus Ouest, et moi-même, qui suis membre de l'UMR Réseau et de la zone Atelier Loire. Et donc, dans cette communication, nous souhaitons vous parler d'hydrodiversité. Alors, en fait, cette idée de l'hydrodiversité, elle nous est venue d'un certain nombre d'états de fait. Le premier, c'est que selon nous, il y a une reconnaissance de la biodiversité et de la géodiversité qui sont aujourd'hui acquises. Et en parallèle, dans le même temps, on constate qu'il y a un certain nombre de travaux de géographes qui démontrent la co-construction ancienne de nos hydrosystèmes fluviaux. Alors, on vous en a listé un certain nombre. Ce sont des travaux de doctorants en géographie, avec notamment sur de grands hydrosystèmes récemment, la thèse de Mélanie David, ainsi que celle de Sandrine Lescure sur la Garonne, mais aussi les travaux d'Anaëlle Vessière sur le Cher et sur de plus petits cours d'eau. Le travail de Marion Jugy en Île-de-France, celui de Axel Beauchamp en Normandie, ainsi que le travail de Guillaume Paysan qui vous a fait une communication avant-hier, il me semble, dans la région Pays de la Loire, sur le bassin de la Loire. La thèse de Johan Blanpier dans les Pyrénées et très récemment celle de Thérèse Hugereau dans la vallée de la Maurienne. Dans le même temps, on a aussi un certain nombre de projets collectifs qui sont engagés autour de ces questions de co-construction et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, dans notre état de fait, on constate que malheureusement, cette connaissance sur la complexité, eh bien, elle est insuffisamment diffusée. Alors même que se multiplient des controverses patrimoniales autour des hydrosystèmes, notamment une opposition souvent entre nature et culture. Quelques illustrations donc, des travaux auxquels j'ai fait référence. Dans un premier temps, donc, deux exemples de travaux de doctorat sur la co-construction. Vous avez donc à gauche le doctorat, une illustration, une planche en fait, présentant les paysages d'un petit hydrosystème normand selon Axel Beauchamp. Donc, il a travaillé, lui, sur la longue durée. Et puis, à droite, le travail de Guillaume Paysan, une illustration de son travail, qui, là, cette fois-ci, est sur une fenêtre de temps très courte, depuis 1950. Alors, les projets collectifs auxquels nous souhaitions faire référence, eh bien, ce sont, bien sûr, on n'est pas exhaustif, hein, c'est notamment un travail qui a été réalisé sur la Loire, mais aussi sur la Garonne, avec deux projets, Rivières aménagées et Territoires de l'eau, qui sont coordonnés par Virginie Cernat. C'est aussi l'Observatoire des paysages de la Garonne, animé par Philippe Valette. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis un très beau projet qui concerne la Vézère, piloté par Jamie Linton, et qui concerne donc un observatoire et une route des crues de la Vézère. Alors, dans un premier temps, on voulait revenir en fait sur un constat que nous avons fait, qui est celui de la banalisation des paysages fluviaux. Si on porte un regard géohistorique en fait sur les aménagements des hydrosystèmes, eh bien on constate que quel que soit le bassin fluvial, on a eu dans tous les cas des volontés de rectifier, de recalibrer les cours d'eau, au final pour réduire leur espace d'expression. Que c'est un processus qui va démarrer dans la plupart des vallées à la période moderne, qui va ensuite s'accélérer au XIXe siècle et se diffuser en Europe tout au long du XXe siècle. Et la conséquence de tout cela, eh bien, c'est une perte de diversité paysagère. Donc là, on a choisi deux fleuves pour référence. Vous avez à gauche la situation du Rhin sauvage, dit sauvage, hein, mais au moins tressé, avec une large bande d'expression, encore en 1828. On voit qu'en 1872, pour des projets de navigation, ça s'est considérablement réduit. Et si on regarde aujourd'hui, ben on n'a plus qu'un chenal, en fait, un canal, qui est celui du Grand Canal d'Alsace. Alors, on a souhaité vous mettre aussi un très beau plan, un plan de projet du début du 19e siècle, le plan de Toula, ici, qui montre bien le projet, hein, et finalement la réduction de l'espace d'expression. Autre exemple très net en France, c'est celui du Rhône, où on a encore à la fin du 19e siècle un Rhône tressé, alors qu'on va progressivement aboutir à la situation actuelle, qui est celle d'un Rhône canalisé, avec une toute petite partie des débits réservés pour ce Rhône dit naturel et le reste de l'expression des chenaux en partie asséché. Donc les conséquences en fait de ces simplifications et de ces projets du 19e siècle essentiellement, eh bien, c'est des héritages dont que nous subissons, enfin, en tout cas dont on hérite aujourd'hui, et qui produisent un certain nombre de conséquences sur nos hydrosystèmes en termes de dysfonctionnement hydrogéomorphologique, de risques d'inondation qui sont la plupart du temps accentués, de perte de biodiversité, mais aussi de banalisation des paysages. Donc là, on a choisi des exemples sur la Loire, l'estuaire. Vous voyez la simplification de l'écoulement entre la fin du XVIIIe et la situation au XXIe siècle. Conséquence désormais bien connue, malheureusement, sur le Val de Loire, avec une disparition d'un grand nombre d'annexes hydrauliques entre début du XXe et aujourd'hui. Vous voyez le chenal en période d'étiage qui se résume au bras principal. Et puis une illustration de projet sur la Garonne entre 1878 et 1848, où on voit le projet qui va à nouveau vers la simplification de l'écoulement. On le voit ici, vous voyez, il reste dès 1846 un seul bras que l'on voit aujourd'hui dans le paysage. Si on porte un regard sur la période actuelle, eh bien, on constate qu'on est aujourd'hui à nouveau en situation d'archétypes qui sont projetés, et on en a choisi en fait deux exemples. Le premier, c'est le projet de restauration et de renaturation des cours d'eau. En fait, c'est un aménagement qui est associé à un nouveau projet de société, celui de restaurer, et qui pour nous est à l'origine de nouvelles formes de banalisation, avec deux photos, pour exemple. Vous voyez ici la construction d'un méandrage, un autre méandrage restauré, dans ce cas, ici, une photo à côté d'Angers. Alors, par ailleurs, on constate que ces projets contemporains, ils sont vecteurs de controverses, on l'a vu tout à l'heure, entre des partisans d'une continuité écologique et puis ceux qui défendent un patrimoine, notamment de moulins hydrauliques. Et au final, c'est une vision de la rivière qui est à nouveau un support technique. Le deuxième exemple dont on souhaitait parler pour la période contemporaine, c'est celui des rivières urbaines, où à nouveau, on retrouve des projets qui sont assez homogènes un peu partout dans le monde. Alors là, on a choisi le principe dit de reconquête des berges, qui s'est donc mondialisé, et où la plupart des agglomérations disent avoir un désir de multifonctionnalité, avec des activités de loisirs, des aménités paysagères, des voies douces, mais aussi une volonté de continuité écologique. Donc là, on a choisi trois illustrations qui sont plutôt très connues et bien souvent copiées. Celle de la ville de Nantes, avec l'île de Nantes, celle de Bordeaux et des quais de la Garonne à Toulouse. Alors, pour terminer cette première partie, on souhaitait aussi vous montrer un certain nombre d'apports d'un observatoire des paysages, qui est celui des paysages de la Garonne, dont je vous ai parlé en introduction. Cet observatoire, dans un premier temps, on voulait vous montrer qu'il nous montre très clairement les effets de l'artificialisation massive de nos fleuves et de leurs vallées. Et là, on a choisi dans un premier temps deux exemples, celui de Bègles, vous voyez, où on va voir l'évolution très nette entre le début du XXe siècle et avril de 2018, avec l'apparition finalement d'un motif paysager très fréquent aujourd'hui en Europe, qui est celui de la voie sur berge. Deuxième exemple, c'est celui de l'assèchement des bras secondaires. On le voit ici à Portet-sur-Garonne, entre le début du XXe et 2013. Autre phénomène que montre cet observatoire, c'est celui de la banalisation des paysages agraires, avec ici une reproduction photographique entre 2000 et 2014. Donc, vous voyez, les choses peuvent évoluer finalement assez vite, pas seulement sur l'échelle d'un siècle. On voit ici en 2000 un paysage de polyculture qui, progressivement en 2012, a tendance à s'enfricher et qui est remplacé en 2014, on est sur le même site, par un paysage d'agriculture intensive et de céréaliculture. Voilà, alors donc tout cet état de fait, cet état des lieux nous a amené à réfléchir à l'hydrodiversité. Et donc, nous souhaiterions vous expliquer un peu plus ce que l'on entend par hydrodiversité. Alors, pourquoi tout d'abord définir l'hydrodiversité? En raison de la tendance généralisée à la banalisation des paysages de cours d'eau, il nous a semblé qu'il était important et que s'imposait l'idée de connaître, de reconnaître la diversité des paysages fluviaux afin de les caractériser, de les inventorier et puis aussi d'identifier les services qu'ils rendaient. Et on souhaitait vous montrer d'ailleurs que bien souvent, dans les manuels scolaires, et on a choisi ici deux illustrations, on avait tendance en fait à représenter les hydrosystèmes fluviaux comme des ensembles déshumanisés. On le voit ici sur une représentation du bassin versant, ou bien ici sur un bloc diagramme présentant les rivières à méandres. Donc notre projet, il est d'aborder la rivière et sa plaine d'inondation, ce que l'on appelle l'hydrosystème, sous l'angle du paysage, dans son épaisseur temporelle, c'est-à-dire selon sa trajectoire dynamique, et comme une rencontre très riche et complexe aussi entre la nature et la culture. C'est ce qu'on appelle l'anthroposystème fluvial. Alors, une définition vous est proposée ici. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à être synthétique parce que c'est le début, en fait, avec deux entrées. Et le premier point, c'est le changement de regard sur l'hydrosystème. C'est-à-dire que nous estimons qu'il s'agit de parler de bien commun, qui est le fruit de la rencontre, on l'a dit, entre la nature et la société via le paysage, caractérisable par ses formes, ses processus et ses représentations, en partie hérité et qualifiable à différentes échelles à la fois de temps et d'espace, et représentant en fait une grande diversité de situations, monde urbain, rural, paysage ordinaire ou bien encore paysage patrimonialisé. Et puis, cette hydrodiversité, elle est susceptible de rendre une grande diversité de services que l'on va appeler hydrosystémiques. Des services qui ont eu lieu dans le passé, aujourd'hui, qui sont prochables, et alors qu'on a essayé de rapidement lister, en termes d'hydrologie, de pédologie, d'habitat écologique, d'aménité paysagère, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Donc au total, cette hydrodiversité, c'est une hybridation entre un hydrosystème et un anthroposystème qui est englobé par le paysage, c'est-à-dire entre matérialité et immatérialité, selon une démarche temporelle. Nous avons tenté de schématiser tout cela. Vous retrouvez ici le système naturel, les sociétés, donc naturelles avec l'hydromorphologie, l'écologie, et puis les sociétés entre usage et subjectivité. Le tout est traversé par la temporalité, et donc l'hydrodiversité recouvre toute cette complexité, avec donc le préfixe hydro pour l'eau comme ressource du fonctionnement du cours d'eau, mais aussi comme ressource pour l'usage et les pratiques des sociétés, et comme source d'imaginaire et de perception. Et puis la diversité, j'en rappelle la définition du Larousse, c'est le caractère de ce qui est divers, varié et différent. Et j'insiste sur le contraire de divers. Eh bien, en fait, c'est tout ce qu'on a montré dans notre première partie, c'est l'uniformité et l'unicité. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, eh bien, notre ambition, ce serait bien sûr d'aller vers une opérationnalité. Et donc, sur le principe de l'inventaire général du patrimoine culturel, il s'agirait, je le cite, de recenser, d'étudier et de faire connaître les éléments du patrimoine qui représentent un intérêt, soit qualifier et donner à connaître, sensibiliser à la diversité, mais aussi aider à la décision. Pardon. Et donc, penser l'hydrodiversité comme un potentiel pour une multifonctionnalité des formes et des usages de l'eau, associé à une préservation de la ressource. Et puis, on l'a vu, c'est aussi sensibiliser le grand public aux valeurs de l'hydrodiversité. Et enfin, ça nous semble très important, venir en appui des démarches de projet en lien avec l'adaptation au changement climatique. Alors, pour terminer en troisième partie, nous souhaiterions vous montrer les premiers travaux de caractérisation que nous avons lancés à l'échelle du bassin de la Loire et de la Garonne. Donc, je vais aller vite.
Nathalie, vous êtes dans votre dernière minute, s'il vous plaît.
OK. Donc, simplement peut-être pour dire qu'on a choisi un certain nombre d'indicateurs que vous avez sous les yeux. Les résultats, très rapidement, c'est que sur ces deux bassins, on a des temporalités qui sont communes, avec une, vous l'avez compris, une banalisation accélérée et quatre temps qui ont été retenus jusqu'au présent. En termes d'hydrologie, c'est contrasté, mais au total, on a des régimes qui sont assez comparables et qui sont à l'origine des aménagements. On constate bien sûr un aménagement généralisé sur nos deux bassins versants, avec des diversités, une grande diversité paysagère, j'insiste pas, et une inégale valorisation du patrimoine, avec davantage de valorisation sur le bassin de la Loire. Alors, j'espère que j'ai le temps de vous lire ma conclusion. Oui. Donc, en fait, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que l'hydrodiversité, elle vient rassembler et enrichir des concepts comme celui d'anthroposystème, proposé par Christian Lévesque et rappelé en début de colloque, comme hybride, comme nature artefact ou comme hydrosystème. Ce qui nous paraît important, c'est qu'elle participe aussi à un nouveau paradigme et à une nouvelle façon d'envisager notre rapport pardon, à la ressource en eau, en termes de ménagement. Et vous avez ici un certain nombre de concepts qui sont associés. Et alors, dans l'avenir, on aimerait en fait renforcer nos connaissances et, vous le voyez, proposer un séminaire interzone atelier. Je vous remercie beaucoup.